Bonjour à tous.
Quelques mots, avec grand plaisir. Quelques mots sur vous et votre parcours pour commencer. Vos parents ont fui la guerre au Vietnam. Vous êtes né dans un camp de réfugiés à Kuala Lumpur. Vous êtes arrivé en Suisse et avez grandi à Nyon. Et votre parcours professionnel ensuite est marqué par deux choses, une vocation humanitaire et l'envie d'innover. Est-ce que ça vous va comme résumé, comme très bref résumé?
Très bien. J'ai grandi en Suisse, à Nyon, et j'ai fait mon université à l'université de Lausanne, j'ai fait HEC. Ensuite, un peu par le hasard des choses, en fait, j'avais une copine japonaise, et ne sachant pas trop quoi faire, j'ai décidé d'aller au Japon pour la suivre, et c'est là que, encore une fois par hasard, je suis tombé sur le secteur du web que je ne connaissais pas. Et là-bas, j'ai lancé ma première entreprise qui était une plateforme de crowdfunding pour aider les ONG japonaises à récolter des fonds après le tremblement de terre de 2011. C'est un peu comme ça que j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur social.
Alors justement, 2011, le séisme au Japon, il y a des projets pour lesquels vous avez d'ailleurs été récompensé, notamment au World Economic Forum. C'est à ce moment-là que vous avez été sensibilisé au défi de la crise de l'eau.
Alors, à ce moment-là, pas encore, même si à l'époque, quand j'avais ouvert cette plateforme au Japon, j'étais tombé sur des gens qui travaillaient dans des ONG qui justement se sensibilisaient les gens sur la crise de l'eau. Mais à ce moment-là, je ne m'étais pas encore rendu compte dans ma tête que c'était un problème qui allait affecter tout le monde, en fait. Selon les statistiques des Nations Unies, d'ici 2030, deux tiers de la population mondiale va être affectée directement, voire indirectement, par la crise de l'eau. Et c'est quelque chose que peu de gens sont au courant, surtout en Suisse, nous qui sommes entourés d'eau. C'est toujours un peu difficile de s'imaginer qu'on va un jour en manquer quelque part.
Justement, vous le dites, c'est difficile de savoir combien de personnes souffrent du manque d'eau. Comment finalement, vous avez réussi à récolter toutes ces informations ?
Écoutez, toujours tout simplement Google. Il y a beaucoup d'informations. Justement, si on cherche tout simplement la crise de l'eau, où est-ce qu'on en est, quels sont les pays qui sont actuellement affectés, quels sont les pays qui seront affectés, on se rend compte qu'en fait, que la carte du monde devient de plus en plus rouge, qui indique que justement les pays vont être victimes de stress hydrique dans certaines régions où certains pays pompent plus d'eau que naturellement les nappes phréatiques peuvent se remplir, et ça devient un problème. Si on ajoute sur le fait que les eaux commencent à être polluées aussi à cause des chimies, des pesticides qui sont utilisés, l'eau devient perd en qualité. Et dans le futur, justement, d'ici 2030, ils disent que, d'ici 2050, pardon, ils disent que, en fait, la demande de l'eau sera supérieure à l'eau disponible de 40%.
Donc, c'est des chiffres qui sont complètement fous.
Ouais, c'est hallucinant. Donc, bien sûr, on a encore, on dit, mais le temps d'y faire quelque chose. Mais si on continue de cette manière d'utiliser l'eau et pas la recycler, etc., on va avoir ce problème. Donc, c'est pas une question de quand, enfin, ça va arriver. C'est inéluctable. Donc, il faut prendre des actions aujourd'hui. Et nous, avec nos machines qui font de l'eau à partir de l'air, c'est pas, je veux pas dire un panacée qui va résoudre toute la crise de l'eau, mais qui va permettre à des régions où il n'y a pas de source d'eau du tout, de pouvoir accéder à l'eau, parce qu'il y a des endroits où l'eau est amenée par camion-citerne, etc. Et c'est pas forcément des moyens, on va dire, écologiques d'amener de l'eau, alors qu'avec ces machines, on peut les alimenter uniquement par des panneaux solaires, et on peut du coup créer des fontaines qui sont, en guillemets, virtuellement illimitées, parce que l'énergie solaire est toujours là, et ces machines produiront de l'eau, même dans des conditions désertiques. C'est ce qui est fort avec ces machines, c'est qu'elles marchent à partir de seulement 15% d'humidité relative.
C'est une machine qui a été inventée par un Espagnol, Enrique Veiga. Nat Vuong, vous l'avez découvert un petit peu par hasard en surfant sur le web. Ça marche comment? C'est quoi le principe de fonctionnement de cette machine?
Alors en fait, cet ingénieur était à la base un ingénieur spécialisé dans la frigorisation. Je crois que c'est pas le bon terme, mais en fait, il faisait des frigos dans le passé. Et en fait, à un moment, en fin de carrière, il s'est dit que il voulait faire quelque chose en fait pour l'humanité. Et c'est comme ça qu'il a en fait dérivé, parce qu'en fait, c'est comme des frigos, ça marche avec un compresseur à air qui refroidit l'air, etc. Mais en gros, l'air est aspiré dans la machine. Ensuite, l'air refroidit à l'intérieur et les gouttes commencent à se condenser. Les gouttes tombent ensuite dans un bac qui est ensuite traité par des rayons UV pour s'assurer que toutes les bactéries, etc., les maladies sont tuées. Et en fait, l'eau à la sortie de la machine, elle est tout à fait prête à être potable à 5 degrés, fraîche et vraiment qui n'a pas de goût particulier. Donc vraiment, quand je suis allé voir les machines à Séville, j'ai demandé à boire l'eau directement de la machine pour m'assurer que l'eau n'avait pas un goût bizarre. Et en fait, tout s'est bien passé. Le lendemain, je n'ai pas eu de problème. Et on a même fait justement le 24 mars, on a amené la machine à Genève, à la gare de Genève, à Cornavin, pour la montrer justement au public et aussi faire que les gens puissent goûter à l'eau et s'assurer qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Donc vraiment, il y a aucun problème. C'est vraiment magique.
C'est donc un espèce de grand cube en inox, hein, on peut dire ça comme ça. Est-ce que la transformation est longue entre le moment où justement vous allez aspirer l'humidité de l'air et en faire de l'eau?
Alors en fait, ça dépend du modèle. Le plus petit modèle produit 2 litres d'eau par jour et le plus grand peut produire jusqu'à 2 litres d'eau par heure, et le plus grand peut produire jusqu'à 400 litres d'eau par heure. Donc on parle de plus de 10 000 litres d'eau par jour. Ça dépend de la puissance de la machine installée. En gros, plus la machine est puissante, plus elle consommera un peu d'électricité, mais plus elle pourra produire d'eau. Donc c'est vraiment... en fait, ils ont plusieurs modèles et selon le besoin de l'utilisateur final, ça peut être un conteneur en inox, comme vous avez dit, mais sinon, la plus grande qui produit plus de 10 000 litres d'eau par jour, elle fait la taille d'un conteneur maritime, comme on voit sur les gros bateaux.
Alors, on l'a dit, à la crise de l'eau, elle va en s'amplifiant. Aujourd'hui, près de la moitié des humains vivent dans des zones où l'eau manque déjà au moins une fois par année. Cette machine, ça paraît simple, ça paraît efficace. Les grandes organisations internationales, les États qui sont touchés par la crise de l'eau ou qui accueillent des camps de réfugiés, ils n'ont pas les sous pour acheter ces machines, pour les installer?
Vous savez, dès que je suis rentré à Genève, je suis plus tout à fait frappé à la porte de l'UNHCR, les réfugiés, l'agence des réfugiés des Nations Unies. Et ensuite, j'ai aussi frappé à la Fondation IKEA, etc. Et ils travaillaient déjà avec des grandes institutions. Et donc, soit ils disaient qu'on n'était pas assez grand, etc. Ils travaillaient déjà avec des gens. Soit, en fait, ils disaient oui, mais en fait, vos machines, elles sont un peu chères, etc. Donc, moi, je suis conscient que ces machines, elles coûtent plus cher que d'aller creuser un puits, bien sûr, parce que voilà, il y a une fabrication, un puits, c'est beaucoup moins de travail. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des endroits où il n'y a pas de source d'eau. Donc vraiment, nos machines, elles peuvent avoir un avantage là-bas, parce que si on doit commencer à construire une infrastructure avec des tuyaux, etc., pour amener de l'eau à un endroit, ça va aussi engendrer des coûts. Donc nous, en fait, on est vraiment du plug and play. On peut arriver, on peut poser les conteneurs, on peut les enclencher, les connecter à des panneaux solaires et l'eau, elle commence à sortir des machines. Donc, c'est vrai que pour le moment, les machines sont chères parce qu'elles sont fabriquées en petite quantité. Mais moi, je suis un peu comme les gens qui ont cru au premier panneau solaire. Au début, les panneaux solaires, c'était pas forcément la manière la moins chère de produire l'électricité. Maintenant, c'est moins cher que le charbon. C'est parce que des gens y ont cru, notamment les Chinois, ils ont produit en masse. Et je pense que ces machines, le jour où elles sont produites en masse, justement, le coût va réduire drastiquement, ce qui va permettre à plus de gens d'avoir accès à l'eau. Donc il faut qu'il y ait des gens, j'ai envie de dire comme nous, qui croient en ces machines dès maintenant pour les faire connaître au grand public et qu'elles deviennent, qu'elles se démocratisent en fait.
Et du coup, Water Inception lance des campagnes de récolte de fonds, des appels aux entreprises également, qui pourraient aider à l'installation de ces machines dans certains camps de réfugiés, notamment au Liban. C'est là que vous prévoyez d'installer la première.
Oui, absolument. Donc, on a lancé une campagne qui s'appelle Water for Refugees, qu'on a lancée donc, le jour de la Journée mondiale de l'eau. Donc, c'était le 22 mars. On a déjà récolté presque 30% de la campagne du goal, hein, qui est de 50 000 euros. Et là, justement, on est en train de contacter des entreprises qui veulent soutenir la cause des réfugiés ou qui veulent aider, en fait, des gens à obtenir de l'eau. Là, on est en train de faire justement le package de sponsor, les packages de sponsoring. Donc, on a une présentation qui est prête à envoyer à n'importe quelle entreprise qui serait intéressée. Je peux faire un peu de promo. Donc, notre site, c'est waterinception.org. en un mot. Et là-dessus, en fait, il y a un formulaire de contact. Donc, s'il y a quelqu'un qui écoute et qui est intéressé pour nous soutenir, vous pouvez sans autre aller sur ce site pour faire un don ou un soutien.
Natouang, on vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de ce projet ce matin. On mettra évidemment tous les liens tout à l'heure sur la page de Format 3. Vous souhaite une très très belle journée.
Merci également. Merci encore pour l'invitation.
Avec grand plaisir.